RMC Motors avec Motorsport TV. Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée au sport mécanique. Tous les dimanches, vous le savez, entre 13h et 14h, on a un très joli programme aujourd'hui puisqu'évidemment, on va commencer par la Formule 1. On vous parlera du Grand Prix du Canada dont le départ sera donné ce soir à 20h10. On sera à l'antenne dès 20h. Bien sûr, vous le savez, RMC, c'est plus que jamais la radio de la Formule 1 et c'est la radio du Grand Prix de France de Formule 1. On en parlera un peu plus tard avec Stéphane Clerc, le directeur du circuit Paul Ricard que nous aurons en ligne et puis on terminera en parlant de moto, mais auparavant, on vous aura donné le résultat du rallye WRC du championnat du monde des rallyes en Sardaigne, où la bataille fait rage dans la poussière entre Neuville et Augier. Et j'ai le plaisir, évidemment, d'accueillir à mes côtés Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Voilà, vous avez le programme. On va commencer par, évidemment, dans cette émission, vous en avez l'habitude, le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Alors c'est plus qu'un tour de chauffe, effectivement, dans ce Motors spécial, c'est pour célébrer le 300e Grand Prix de Fernando Alonso. Alors Adrien, j'ai envie de te demander, évidemment, c'est déjà une légende de la Formule 1, double champion du monde, 2005-2006. La longévité, c'est un élément important. Il avait démarré au Grand Prix d'Australie en 2001, mais bon, comme on le dit de manière coutumière, je pense que lui préférerait accrocher peut-être une victoire de plus.
Un des grands champions actuels et toujours en activité en Formule 1 aujourd'hui. Je pense que c'est un des pilotes, sinon le pilote peut-être qui a la plus belle réputation en termes d'attaque, de ténacité, de passion pour ce sport. C'est Fernando Alonso, c'est le pilote qui lâche rien par excellence. Et puis c'est sûr qu'il préférait casser des record d'une autre manière que par sa longévité, comme tu le disais. Mais bon, c'est comme ça. Il a souvent, dans sa carrière, été parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, dans ses choix après Renault. Il a fait les belles heures de Renault il y a quelques années de ça. C'est deux titres de champion du monde. Mais ensuite, il a souvent fait des choix un peu malheureux.
C'est vrai.
Qui étaient sur le papier des bons choix, mais qui se sont avérés un peu compliqués.
Même si le palmarès est impressionnant, hein, quand même. Oui. 32 victoires en Grand Prix, il faut le rappeler. 22 pole positions, 23 meilleurs tours en course, 97 podiums à ce jour. Donc il pourrait, on l'espère en tout cas pour lui, accéder aux 100 podiums. Et puis on vient de le dire, il prendra part à son 300e Grand Prix. Juste un mot, c'est pas pour ternir la joie, mais on peut contester deux de ses départs en Grand Prix. Une fois, il avait cassé un moteur dans le tour de chauffe, donc il n'a pas pris effectivement le départ. Et une autre fois, pour des raisons de pneumatique, tu t'en rappelles certainement aussi à Indianapolis, où on avait retiré les monoplaces, il n'y était pour rien. Donc ces deux départs, il les a pas pris. Mais bon,
ce Grand Prix-là a été comptabilisé, d'accord.
Oui. On va pas chipoter, il y a 300 Grand Prix, c'est ce qu'on va dire. On va l'écouter d'ailleurs au micro de Lucas Vinois, Fernando Alonso, parlait de ce record 300 départs en Grand Prix de Formule 1.
C'est un nombre un peu spécial. Je suis heureux parce que ça fait longtemps que je suis en Formule 1. Les deux titres de champion représentent mes meilleurs souvenirs. J'ai 36 ans, ça veut dire que j'ai passé la moitié de ma vie en Formule 1. Peu de personnes ont l'occasion de courir tant d'années, de ne pas être rusé, de trouver une écurie. Je vais terminer la saison au deuxième rang des pilotes avec le plus grand nombre de courses disputées. L'objectif est d'aller chercher le record l'année prochaine, puis ensuite, je parlerai avec Rubens Barrichello pour qu'il me donne un conseil pour le garder le plus longtemps possible.
Et oui, parce que Rubens, évidemment, avec 325 Grands Prix, c'est lui qui en totalise le plus. Là aussi, il y a toujours un ou deux Grands Prix qui traînent, hein, où Rubens également, pour les mêmes raisons d'ailleurs, a pris ou pas le départ. Et puis, on rappelle qu'au-dessus de 300 Grands Prix, il y a aussi Michael Schumacher et Jenson Button. Et a priori, Adrien, on va toucher du bois évidemment pour Fernando. S'il termine cette saison et que tout va bien, eh bien, il deviendra le deuxième plus pilote à accumuler le plus de départs Grands Prix
derrière Rubens. Ouais.
Donc, il fait un peu d'humour, effectivement. Écoutez, Lucas a bien bossé, Lucas Vinois, vous le savez, qui nous a rejoint dans l'équipe de la Formule 1 sur RMC. Il a été voir Charles Leclerc pour lui demander également ce qu'il pensait de cette 300e de Fernando Alonso. Charles Leclerc, évidemment, il débute sa carrière en Formule 1 et pour lui comme pour les autres, Alonso est une référence, écoutez-le.
C'est incroyable, j'espère juste avoir une carrière aussi longue que la sienne. Je suis très content pour lui et bien sûr il le mérite, hein, j'ai pas besoin de le dire, mais bon, c'est un talent incroyable. Depuis tout petit je le regarde et c'est vrai que maintenant de rouler avec lui c'est impressionnant.
Ah oui, c'est un rêve devenu réalité, hein, Adrien, pour tu le connais bien évidemment, Charles, pour lui, comme il le dit, c'est vrai qu'il est en F1 depuis 2001, donc il avait quoi, il avait 3 ans, Charles. Oui,
ça doit faire bizarre, hein, ouais. pour Charles de courir contre une idole de sa jeunesse avec lequel probablement il jouait à la PlayStation
absolument
quand il était jeune, et c'est sûr que c'est aussi important d'ailleurs de ne pas avoir de complexe, et je pense qu'il n'en a pas Charles, parce que quand il se bat avec lui, d'ailleurs il l'a devancé hier en qualification si je ne m'abuse,
et
c'était une grande performance avec sa Sauber qui est bon certes performante, enfin en tout cas il fait vraiment des belles choses avec, et la McLaren est sur le papier quand même meilleure que la Sauber, donc hier encore une belle performance de Charles Leclerc.
Et tu as raison de le souligner, puisqu'on entre un peu dans la grille, Charles s'élancera avec le 13e temps sur la grille, donc la 4e fois de rang qu'il est en Q2, et Fernando Alonso n'est que 14e avec sa McLaren à moteur Renault, donc c'est absolument étonnant. Écoutez ce que Romain Grosjean a dit également à Lucas Vinoy de cette 300e participation en Grand Prix de Fernando Alonso.
Ça reste une référence dans le paddock, un excellent pilote, un pilote polyvalent, c'est super de le voir faire le championnat du monde d'endurance avec Toyota, d'aller faire les 24 heures du Mans, et surtout c'est pas avoir perdu cette envie, cette rage de vaincre qu'il a toujours et qui est belle à voir.
Elle est belle à voir, ça c'est une évidence, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire, on l'avait surnommé le taureau des Asturies, hein, puisqu'il est originaire des Asturies, Fernando Alonso. Tu disais, Adrien, à juste titre, que quelle que soit l'adversité, et il en a connu ces 3 dernières saisons avec la McLaren et les problèmes du moteur Honda, et puis cette McLaren qui est là aussi, soi-disant, on nous avait vendu le meilleur châssis, on le voit bien avec un moteur Renault, bah non, les Renault sont devant là pour le moment, et pour ne pas parler des Red Bull. Donc ça veut dire qu'il a toujours la même attaque et la même opiniâtreté du côté de...
Oui, alors que Ogier, ouais, a peut-être perdu le rallye, Jean-Luc,
ça va être
il a
fin,
une seconde 5 ouais, je crois de Thierry Neuville, et, ouais, et effectivement je crois qu'il perd, ouais, pour 7e.
Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Malheureusement pour nous Français, hein, eh bien c'est Thierry Neuville, le pilote belge, qui remporte ce rallye de Sardaigne pour 0,7 seconde. Là, vous l'avez en direct live. On en parlera tout à l'heure avec Benoît Boutron, bien sûr, qui va nous donner les résultats officiels et complets de ce Grand Prix. Là, on l'arrache un petit peu à la volée, Adrien. Et là, vous voyez que vous êtes au cœur de l'action dans Motors. Vous ne perdez rien. Évidemment, c'est la joie dans le camp de Hyundai. Il ne fait que conforter sa position au classement général provisoire du championnat du monde. Le pilote belge, oui, on peut dire que, enfin, l'écart était réduit, hein, 3,9 secondes. Allez, on va pas rentrer dans le détail maintenant, on y reviendra tout à l'heure. On reste sur la 300e, le 300e Grand Prix. On va écouter, tiens, Pierre Gasly, peut-être maintenant, toujours au micro de Lucas Vinoy, nous parler de sa réaction et de son sentiment par rapport au double champion du monde espagnol, Fernando Alonso.
Pour moi, Alonso, c'est une légende de la Formule 1. Je le regardais, il était champion du monde, que j'avais pas encore commencé le kart. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est en Formule 1, mais il a été champion du monde, c'est un des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1. Donc je pense qu'il est parti pour aller battre le record.
Et pour ça, faudra qu'il reste en Formule 1, Adrien, ce qui n'est pas forcément certain, hein, puisque on sait que Fernando a un contrat évidemment jusqu'à la fin de l'année, mais on rappelle qu'il sera aux 24 heures du Mans avec Toyota, et que son objectif, on peut oser le dire maintenant, il l'a dit lui-même, hein, c'est de réussir le triptyque magique Monaco, 24 heures du Mans, Indianapolis, auquel il a participé l'an dernier, et en plus, lui, il a été champion du monde.
Je pense qu'il y a plein de critères qui viennent, qui rentrent en ligne de compte pour ses choix futurs à Fernando Alonso. Donc pour nous c'est un peu compliqué de prédire l'avenir, oui. mais effectivement comme tu le dis, il va avoir une belle chance cette année de remporter peut-être les 24 heures du Mans dans de très belles conditions avec Toyota, et peut-être
disons qu'il est bien placé maintenant, voilà. Tu connais comme moi cette épreuve,
il faut aller au bout, et, ouais, et c'est très compliqué, en tout cas c'est la chose la plus difficile à faire, et maintenant pour ce qui est de son futur en Formule 1 et de peut-être aller chercher le record de Rubens Barrichello, ben on le sait tenace. Et quand même j'ai envie de penser qu'il a vraiment envie de revenir sur les podiums aussi en Formule 1, et que s'il y a une opportunité et que s'il voit un peu la lumière au fond du tunnel, il la saisira et il continuera à rouler en Formule 1. En tout cas, c'est vraiment comme tu le disais, hein, le taureau des Asturies, c'est le pilote qui lâche rien et qui fait toujours des belles remontées, parfois avec des trapanelles. Oui, non, mais c'est
non, mais tu as raison. Ah, voilà. Mais il exploite tout ce qu'il peut. Et d'ailleurs, par parenthèse, c'est presque un hommage qu'on rend aussi à Stoffel Vandoorne, son équipier belge, qui est vraiment sur ses talons. Allez, on va écouter la dernière réaction d'un pilote français. Vous l'avez compris, il n'en manque qu'un. C'est Esteban Ocon, pardonnez-moi, au micro de Lucas Vinoy, il faut le dire.
C'était quelqu'un que je détestais à l'époque parce que j'étais fan de Schumi. Mais maintenant c'est différent. Je suis toujours un grand fan de Schumi, mais j'ai grandi et voilà, tout le respect que je lui dois à avoir couru contre lui, voir ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment impressionnant. Donc j'ai un grand respect pour lui.
Eh ben oui, on ne peut qu'avoir un grand respect, surtout quand on le côtoie sur les pistes. Et là aussi, il y a qu'un pilote qui peut se rendre compte à quel point. Une petite question, t'as d'ailleurs, que j'allais te livrer, alors qu'on a une confirmation au championnat du monde. 149 points pour Thierry Neuville, je parle de WRC. 122 points pour Sébastien Ogier. Ça se creuse, hein. C'est-à-dire qu'il y a 27 points d'écart maintenant entre les deux hommes forts du championnat. Je vous l'ai dit, on en reparlera tout à l'heure. J'ai pas pu résister au plaisir de vous donner cet écart et cette confirmation. Adrien, je voulais simplement dire, quand on est dans une autre monoplace et qu'on côtoie une légende, on peut le dire, Fernando Alonso, c'est déjà une légende de la Formule 1. Est-ce qu'on peut réellement, objectivement, juger de ses capacités et de son talent quand on n'est pas dans la même voiture que lui?
C'est
question délicate.
C'est la question du sport automobile en général. Il est toujours difficile de faire des comparaisons intrinsèques de la valeur de chaque pilote, parce qu'il faut vraiment être au même endroit, au même moment, dans la même monoplace pour pouvoir juger d'un pilote. Et encore, par exemple, au Canada, depuis le début du week-end, on a un Verstappen et un Ricardo dans la même monoplace, mais ils ont tous les deux pris des directions différentes sur leur réglage. Il y en a un qui est un peu devant son coéquipier, donc Verstappen depuis le début du week-end, mais les raisons elles sont globales. C'est pas seulement le pilotage qui rentre en ligne de compte, c'est aussi la façon de régler sa voiture. C'est pour ça qu'un pilote doit être complet aussi. Donc pour juger vraiment de la valeur du talent d'un pilote, il faut
être dans la même voiture.
Dans la même voiture
et avoir le même matériel et disposer du même matériel. Bon, c'est une bonne réponse. Je n'en attendais pas moins de toi. Alors on va revenir à cette grille de départ du 7e Grand Prix de la saison 2018, vous la connaissez certainement si vous étiez avec nous pour les qualifs hier en direct sur RMC, la radio de la Formule 1, je vous le répète toujours, et c'est un grand plaisir de le souligner puisque nous allons avoir ce Grand Prix de France après le Grand Prix du Canada dans deux semaines, dont on se pourlège déjà les babines. Donc c'est Sébastien Vettel qui a signé la pole. Alors on sait que c'est la 4e pole de la saison pour lui, et la 4e au Canada, et la première pole Ferrari depuis 2001. Quand même, Adrien. Donc c'est quand même un exploit qu'il a réalisé.
Oui. D'ailleurs, c'est une statistique assez surprenante. Un circuit qui apparemment ne plaisait pas trop à cette Ferrari. Alors cette année, on a Mercedes qui est la seule écurie à pas avoir apporté de développement à son moteur pour cette course. Donc forcément,
ils l'ont différé. Finalement, c'était pas
un écart un peu resserré avec le moteur Renault et le moteur Ferrari. Une Mercedes qui a l'air d'utiliser les pneus hyper soft, ce pneumatique plus tendre qui a été amené cette année par Pirelli, un peu moins bien que ses adversaires et Ferrari notamment, et puis Red Bull qui pêche un peu de par son moteur Renault un poil moins performant dans le dernier secteur. Donc voilà, c'est Ferrari qui en sort vainqueur, mais de peu, puisqu'on a 6 pilotes en 3 dixièmes. C'est surprenant, enfin en tout cas c'est très intéressant pour la course
et très impressionnant. Effectivement, ça veut dire que ça tient à très très peu de choses. On va tout de suite écouter au micro de Lucas Vinoy, Sébastien Vettel, parler de ses qualifications, malgré tout difficiles pour lui, pour le pilote allemand.
Je pense que nous avons une monoplace performante, très efficace. En qualification, nous avons été capables de progresser. Je me sentais de plus en plus à l'aise à l'intérieur de la voiture. Alors qu'en essai libre, nous avons connu une dernière séance difficile. Le rythme n'était pas bon. Nous avons eu quelques problèmes et il fallait se battre pour extraire quelque chose de la voiture. Nous avons rectifié le tir. Heureusement, c'était suffisant pour terminer devant les autres.
Alors aussi, c'est toujours bien de repositionner un Vettel. 204 Grands Prix, voyons, on parlait de 300 il y a un instant pour Alonso. 49 victoires, 54 pôles quand même. Donc c'est la 54e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. Il aura à ses côtés Valtteri Bottas. Alors Valtteri Bottas qui devance son équipier Hamilton. Et je vais te poser une question double. Effectivement, Adrien, c'est que on constate quand même si effectivement à Monaco, là aussi, Hamilton était devant, mais On est surpris de voir Hamilton commettre des erreurs et Bottas en commettre moins. Il est à moins d'un dixième de Vettel.
Bah, on est surpris surtout à Montréal parce que c'est un circuit que Lewis Hamilton apprécie tout particulièrement et ce dernier secteur qui lui a fait défaut en qualification et quelques fois depuis le début du week-end, bah, c'est le secteur qu'il préfère où il est toujours très rapide. Là, il expliquait après la qualification qu'il était allé dans une direction au niveau des réglages de sa monoplace dans une direction un peu plus compliquée, un petit peu plus pointue. Il avait rendu la voiture un peu plus vive et notamment sur les bosses du freinage de ce virage 10, cette épingle qui est toujours un peu compliquée. Mais là, apparemment, d'un tour sur l'autre, il bloquait soit le train avant, soit les roues arrière et ça lui faisait perdre ses 2-3 dixièmes ou ses 2 dixièmes très cher dans ce virage-là. Il avait probablement la pole dans sa voiture s'il avait réussi. Mais bon, avec des scies, on peut faire plein de choses.
Tout le monde signe la pole. Ouais. On va rappeler que Valtteri Bottas, c'est bien le deuxième sur la grille de départ, aux côtés du poleman Sébastien Vettel. Eh bien, Valtteri Bottas avait terminé deuxième en 2017. Et pourquoi j'ai associé les deux? Pourquoi j'ai associé Hamilton? Eh bien, parce que Hamilton, ça aurait pu être son dixième départ de la première ligne. Donc, sur ce circuit Gilles Villeneuve. Donc, on peut dire qu'il s'est quand même un peu loupé, même si l'écart en temps, comme tu le disais, est extrêmement faible. Et puis, Hamilton, vainqueur quand même en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017. C'est quand même sacrément impressionnant. Il a déjà fait le hat-trick, la passe de 3. Donc, je sais pas comment on dit quand il y en a 4. Mais si c'était lui qui l'emportait, effectivement, ça ferait du bruit. Alors, sur la deuxième ligne de la grille de départ, on va retrouver Verstappen. Verstappen qui avait été l'homme le plus rapide, Adrien, pour les 3 séances d'essais libres.
Oui, Verstappen qui depuis le début du week-end était devant, bien devant son coéquipier Ricardo, et puis une Red Bull est très efficace en châssis une fois de plus avec une charge aérodynamique à Montréal réduite et un grip mécanique important. Le seul bémol c'est le dernier secteur là où peut-être en qualification les moteurs Mercedes et Ferrari ont poussé peu les limites et ont refait leur retard, donc c'était compliqué pour Verstappen de jouer la pole, mais rappelons-le, on en reparlera peut-être plus tard, mais les Red Bull sont sur des stratégies différentes en course.
Oui, on peut quand même le rappeler parce que tu as raison, c'est très important. Vettel, Bottas et donc leurs coéquipiers naturellement respectifs Hamilton et Raikkonen partiront avec le pneumatique ultra soft qui sont donc la gomme moyenne, on va dire, proposée par Pirelli, alors que les hyper soft ont été adoptés par les Red Bull. Alors, on va continuer justement à dérouler cette ligne, Vettel, Bottas première ligne, Verstappen, Hamilton, on en a beaucoup parlé, on va pas y revenir. Ça va être très très chaud. Oui, là il y a les ferments d'un départ, surtout qu'on connaît l'espèce d'escargot qui se trouve juste après le départ. Ça va être très très chaud effectivement au Canada, dans l'île Notre-Dame. Et la troisième ligne est composée de Raikkonen. Alors il n'est qu'à 331 millième de son équipier Vettel. Mais enfin là, on peut dire que lui aussi c'est un petit peu raté en qualif. Et j'en arrive à Ricardo parce que nous allons l'écouter. Il était au micro de Lucas Vinois parler de la stratégie. Alors on peut préciser, mais on y reviendra, qu'en termes de réglage aussi, il a été vers ceux de Verstappen. On écoute Ricardo au micro de Lucas.
Nous sentons que notre choix de pneus est le bon. Les premiers tours en hypertente nous permettront d'être meilleurs en début de course. Nos chances d'être en pole position étaient faibles, même si Verstappen a réalisé le meilleur temps de toutes les séances d'essai libre. Nous avons pensé que ces pneus nous donneraient plus de chances de doubler au moment du départ. C'est bien d'avoir une stratégie décalée. Nous espérons seulement que ce sera la meilleure.
Alors, c'est maintenant qu'on va en parler. Effectivement, on rappelle que Ricardo, 2 victoires, autant que Vettel et Hamilton. Alors, un peu servi par les circonstances, mais surtout excellent opportuniste. Ricardo, on peut jamais l'écarter d'une victoire, quel que soit le circuit, et particulièrement au Canada.
Bah, c'est il est redoutable de constance et de et d'opportunisme. Il sait saisir les opportunités quand il y en a. Et en plus de ça, il a une Red Bull qui évolue bien pendant la saison. On sait que cette équipe arrive à développer la voiture de façon formidable par rapport à Mercedes et à Ferrari, et c'est pour ça que ça va être, à mon avis, un client pour le championnat.
Et d'ailleurs, Adrian Newey est dans les stands. Moi, j'aime bien quand Adrian Newey est dans les stands. Ça veut dire qu'il revient un petit peu aux affaires. On rappelle que Ricardo s'était imposé en 2014 au Canada. On marque une toute petite pause, mais on continue dans Motors avec le Frenchies Corner dans un instant, et puis l'interview de Stéphane Clerc, le directeur du circuit Paul Ricard. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Allez, vous êtes bien dans Motors, on est dans la deuxième ligne droite et on va avoir dans un instant Stéphane Clerc, le directeur du circuit Paul Ricard, pour nous parler de ce Grand Prix de France formidable qui va se dérouler dans deux semaines. RMC est partenaire, vous le savez, de cet événement. RMC, la chaîne plus que jamais de la Formule 1. Et là, nous abordons, c'est logique, le Franchise Corner.
RMC Motors, le Franchise Corner.
Alors, on va peut-être l'entendre, cette Marseillaise. En tout cas, Esteban Ocon fait tout ce qu'il peut. On va l'écouter tout de suite au micro de Lucas Vinois, puisqu'il est dans une dynamique positive. On rappelle qu'il a terminé sixième du récent Grand Prix de Monaco. Esteban Ocon, au micro de Lucas Vinois.
C'est ce que j'avais à travailler. Vers la fin de saison, j'avais progressé. J'ai continué à bosser ça pendant l'hiver et aujourd'hui, voilà, j'arrive à être un petit peu devant lui en qualif. Donc ça fait plaisir parce que voilà, j'ai vraiment travaillé là-dessus. C'était un point qui me chagrinait un petit peu. Donc faut que ça continue.
Voilà, c'est un point naturellement sur sa compétitivité par rapport à son équipier Sergio Pérez. Il faut bien reconnaître que malgré les difficultés techniques en début de saison, hein, Esteban effectivement a progressé de ce côté-là.
Oui, et puis il est très 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 lucide. Esteban, il sait que toute la première moitié de saison l'année dernière et même sur la saison en globalité, il lui manquait un peu de performance sur un tour et il le confirme et c'est sur ça qu'il a progressé cet hiver et sur ça qu'il a travaillé et il arrive à être régulièrement maintenant devant Sergio Pérez qui, on le répète, est un excellent pilote, une excellente benchmark pour lui. Et voilà, c'est intéressant pour Esteban d'être devant le Mexicain.
Bah oui, c'est extrêmement intéressant puisqu'on le rappelle, le meilleur des adversaires, le meilleur ennemi, c'est évidemment celui qui partage le même matériel. On l'évoquait tout à l'heure à propos de Fernando Alonso. On va l'écouter justement, Esteban Ocon, toujours au micro de Lucas Vinois, parler de ses ambitions potentielles sur ce tracé-là. On vous donnera une petite explication après sur les propos que tient Esteban.
S'il se passe rien devant, c'est septième qu'il faut qu'on fasse. Après, s'il se passe des choses devant, on essaiera d'avoir le plus possible. En tout cas, on part dans de bonnes positions. Mais il va y avoir plein de choses qui vont se passer en course avec la dégradation des pneus, avec les différentes stratégies. Donc, faut qu'on soit vigilant.
Pourquoi septième, Adrien? C'est facile à comprendre. Ouais. Qui sont les six autres?
Les trois écuries de pointe, Ferrari, Red Bull et Mercedes. Après, voilà, c'est comme il le dit, hein, c'est un circuit où pas mal de choses peuvent se passer. Il a une monoplace qui est toujours très rapide en ligne droite, qui a peu de traînée aérodynamique. Elle est très efficace aérodynamiquement. Mmh. Et il va pouvoir aller doubler, ou en tout cas essayer d'aller doubler Esteban. Donc voilà, c'est encore ouvert. Et puis le départ, il peut encore se passer pas mal de choses. Maintenant, c'est sûr que s'il fait septième, ça sera un très bon résultat pour lui.
C'est bien Nico Hülkenberg, hein, son objectif, voilà, qui le partage premier. Cette ligne, voilà, avec lui, cette quatrième ligne, effectivement. Et c'est vrai que c'est un peu triste aussi, et c'est ce qu'évoquait Alonso à plusieurs reprises, de se dire qu'on part pour être sixième, quoi, dans le meilleur des cas. On va écouter Charles Leclerc. Alors, il est treizième, vous me direz, c'est pas forcément formidable, mais quand on pilote une modeste Sauber Ferrari, ben c'est carrément un exploit qu'a réalisé Charles Leclerc, moi je vous le dis. Et il l'a pas dit en ces termes-là, mais il était content au micro de Lucas Vinois.
Je suis hyper content de mon tour. Après, il n'y a jamais un tour parfait. Et quand on voit qu'il y a seulement 6 centièmes qui me séparent de la 11e place, c'est évident qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait 13 et on est quand même très content du résultat.
Voilà, alors je vous rappelle évidemment que Charles Leclerc est monégasque, on le dit à chaque fois, puis il va falloir que j'arrête de le dire. Mais on va, il est francophone, et donc il est avec nous. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, et celui qui est avec nous également, et c'est un grand plaisir de l'accueillir sur l'antenne de RMC dans Motors, c'est Stéphane Clerc, le directeur des circuits Paul Ricard. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Je te remercie d'être avec nous, je sais que tu dois être plus que débordé, d'ailleurs si je ne m'abuse, tu es au bureau là aujourd'hui.
Et oui, je crois qu'on va pas quitter le bureau d'ici le Grand Prix, parce qu'il nous reste un peu de travail ici.
Ouais, t'as dû installer le lit de camp, là, hein, où ça ressemble à ça. Bon, écoute, on va prendre des nouvelles de ce Grand Prix de France. C'est peu de dire, je le répète, et c'est vraiment très sincère. On est fou de joie qu'il y ait à nouveau un Grand Prix de France, qu'il se déroule sur le circuit Paul Ricard, qui est un circuit mythique. Alors, je vais tout de suite parler du bouquin remarquable qui a été écrit par Daniel Ortelli et qui retrace toute l'aventure du circuit qui a été créé par Monsieur Paul Ricard. C'est pour ça que je prends toujours soin à appeler ce circuit comme ça. C'est pas le circuit du Castellet, c'est bien un nom propre, Monsieur Paul Ricard, et c'était intéressant, Stéphane, dans ce bouquin, de revenir justement sur toutes les heures de gloire de ce circuit.
Oui, parce qu'on a la chance d'avoir un circuit qui est un circuit de légende. C'est pas une piste toute neuve qui serait formidable, mais qui n'a pas de passé. Là, c'est une piste avec des histoires légendaires, une histoire en tant que telle. Hein. C'est un circuit qui a évolué. On ne le sait pas forcément, mais le tracé a évolué d'un circuit très populaire. C'est devenu un circuit à la fois très moderne et avec une qualité d'installation assez rare. Et je crois que ce bouquin de Daniel Ortelli, il retrace l'histoire et qui a été également émaillé d'acteurs importants. Hein. Oui. Paul Ricard, bien entendu, mais une série de gens qui ont compté. Je pense à François Chevalier, qu'il a dirigé bien pendant sûr. Un certain nombre d'années. Je pense à Philippe Lurdjian, je pense à Gérard Neveu. Voilà, ouais. Qui sont les gens qui ont fait vivre cette piste. Et aujourd'hui, avec Claude Sage, notre administrateur, je dirais, on est à la barre d'un véritable joli navire qui est en train de se transformer pour le Grand Prix. On ne le reconnaîtra pas. En tout cas, c'est ce que nous, on est en train de vivre. Et je pense que vous ne le reconnaîtrez pas.
Dans le bon sens du terme. Et pourtant, je le connais bien. Tu sais, il y a un moment que je l'arpente, celui-là, avec un immense plaisir. Donc, ce bouquin, Circuit Paul Ricard, Les Seigneurs de la F1 de Daniel Ortelli. Voilà, des photos excellentes, évidemment, de Bernard Assé, de Bernard et de Paul-Henri Caillet aux éditions Giletta. Ça, c'est fait. Adrien, peut-être tu voudrais poser une question à Stéphane.
J'avais une question, Stéphane, oui. Parce que j'ai eu la chance de rouler la semaine dernière pour les 1000 km en GT3 avec le Blancpain et j'ai vu pas mal de modifications. Il y a encore des choses qui sont faites d'ici au Grand Prix où on était proche de ce que sera le Paul Ricard pour le Grand Prix de France.
Alors sur la piste, il y a encore quelques éléments de sécurité qui vont être rajoutés, quelques vibreurs supplémentaires pour que le respect de la ligne de course soit facile à juger.
C'est important.
C'est vrai qu'on peut en parler dès aujourd'hui. Mais côté piste, voilà, quelques changements sur le revêtement. On a 2-3 corrections à amener sur le revêtement qui a été entièrement refait au mois de décembre avec des virages qui ont été modifiés. Et ça, c'est partie piste. Non, les aménagements principaux qui restent à faire, c'est terminer l'ensemble des tribunes. Et en particulier depuis le Blancpain, la tribune des stands qui fait plus de 11 000 places est maintenant terminée. Il nous reste à poser le toit. Donc c'est quelque chose de spectaculaire ici qui est en train de se dérouler. C'est un vrai gros chantier et ça fait plaisir quand ça se termine. Voilà.
Oui, j'imagine. Surtout que le circuit est en travaux donc depuis de longs mois, hein, depuis l'annonce effectivement de la venue de ce Grand Prix de Formule 1. Alors j'ai envie de te demander. On connaît tous ces virages mythiques, hein, effectivement les S de la Verrerie, le virage de l'école. Alors ligne droite du Mistral, parlons-en.
Le Bossé,
bien sûr. Oui, je vais pas tous les citer. Oula, effectivement magnifique. La courbe de Signe et le double droite du Bossé, le virage du pont, enfin bon, effectivement. Est-ce que il y aura une chicane, hein, je crois, dans la ligne droite, hein, il faut le dire, Stéphane, qui a été décidé il y a assez longtemps d'ailleurs. Il y a deux chicanes potentielles.
Oui, en fait, il y a la chicane nord donc qui va être activée pour le Grand Prix. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir trois lignes droites où les Formule 1 vont pouvoir être quasiment à fond à chaque fois. On pense à la ligne droite des stands, hein, dont la longueur permet d'arriver à fond et avec un gros freinage sur un virage qui est maintenant plus fermé que jamais. La Verrerie, qui était à l'époque un virage très rapide, est devenu un virage fermé maintenant, avec beaucoup de largeur pour permettre d'éviter un accrochage au premier tour et ensuite d'offrir une vraie zone de dépassement, puisqu'on sera en fin d'une zone de DRS, évidemment. Ensuite, la grande ligne droite, celle du Mistral, elle fait 1,8 km. On l'a coupée en deux, de manière à ce que en 900 mètres, de toute façon, les Formule 1, elles sont à fond. Et donc, elles vont arriver à fond avant un gros freinage qui, là, va permettre dans la chicane d'avoir une zone de dépassement. C'est ce qu'on cherche. On n'a pas envie qu'on ait un petit train. On a vraiment envie de voir du spectacle. Et donc, cette chicane, elle va permettre de créer encore en fin de zone DRS une vraie possibilité de se dépasser. Et ensuite, on réaccélère progressivement. Mais finalement, il reste 900 mètres. Et cette ligne droite, elle débouche sur la courbe de Signe. Et on a la chance, avec donc cet enchaînement ligne droite du Mistral, courbe de Signe, d'avoir le virage et l'endroit où les voitures vont aller le plus vite dans le championnat. C'est-à-dire qu'on va avoir un virage en aveugle à 340-350 km/h en qualif, sans doute, en aveugle à droite, qui est sans doute le juge de paix du circuit. On n'y dépassera pas, mais en revanche, on pourra y gagner ou y perdre du temps, et ça jouera pour les qualifs.
Ah ouais, ça va être fabuleux. Et moi, j'ai souvenir de dépassements extraordinaires à l'entrée du double droite du Bossé, notamment le fameux duel, et tu le connais aussi, Stéphane, entre Alain Prost et Ayrton Senna avec les McLaren en 89, je peux te dire. Chaque fois que j'y pense, j'en ai encore les poils qui se dressent, tellement c'est un endroit absolument fantastique. La longueur du circuit, c'est bien un peu plus de 5,8 km. combien y aura-t-il de tours d'ailleurs?
53 tours pour donc 5 km 800 avec un circuit qui et Adrien pourra nous le confirmer, un circuit qui a changé en termes de grip, c'est-à-dire qu'on a maintenant beaucoup de grip et très peu d'abrasivité. Donc c'est formidable, j'allais dire, pour la course parce que ça veut dire qu'on va avoir de la performance. En revanche, côté stratégie, comme on a une ligne droite des stands, en tout cas une pit lane qui est assez longue, je crains que ça ne soit pas une course stratégique, c'est-à-dire on n'aura qu'un arrêt pour tout le monde, sauf évidemment conditions météo ou safety car, mais en temps normal de course, je dirais qu'on n'aura qu'un arrêt, donc ça jouera pas sur la stratégie, c'est vraiment les pilotes qui vont avoir leur mot à dire pour gagner cette course.
Alors, est-ce que tu as une idée du temps autour qui pourrait être réalisé sur ce tracé de 5 km 800 ?
En simulation et avec les essais Pirelli qui ont lieu assez régulièrement sur le circuit, puisqu'on développe ici les pneus de la Formule 1, on pense qu'on sera en dessous des 1.30.
D'accord, en dessous des 1.30. Ok, oui, c'est un élément important. 53 tours, on le rappelle, c'est les grands principes. Et alors, question auprès du public, parce qu'on sait que tout sera fait pour que le public soit accueilli dans les meilleures conditions et surtout en grand nombre, puisque le tracé a été fermé il y a quelques années. Vous le savez, il était réservé aux essais de la Formule 1. Tu parlais de Philippe Gurdjian tout à l'heure, c'était un choix. Il appartenait à Bernie Ecclestone, ce tracé à cette époque-là. Donc, combien de spectateurs attendez-vous et qu'est-ce qui sera fait pour bien les accueillir?
On a créé presque maintenant 52 000 places de tribune. On en a rajouté finalement 45 000, ce qui transforme ce circuit en une des plus grandes enceintes sportives. Si on ajoute les gradins et les buts naturels, on peut accueillir entre 65 000 et 70 000 spectateurs. Donc c'est autant qu'un stade de France et plus qu'un bon nombre de stades. Donc on a une vraie enceinte sportive désormais et tout a été, j'allais dire, imaginé et prévu pour que l'expérience des spectateurs soit exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est la qualité des emplacements de tribunes, la qualité des tribunes qui ont été créées, va surprendre ou en tout cas ravir ceux qui seront avec nous, en plus d'un gros programme d'animation, parce que la course ne suffit pas, on vient passer ici 3 jours, en tout cas c'est ce qu'on propose, et donc on a émaillé le programme de beaucoup, beaucoup d'animations, certaines surprises, certaines sont déjà connues. Je pense au concert de David Guetta en clôture du Grand Prix après le podium. Bref, un show aérien, pas mal de la Patrouille de France, pas en show, non seulement un bleu blanc rouge sur la ligne, mais un grand show de la Patrouille de France. Donc tout est réuni, je dirais, pour que aujourd'hui, la billetterie c'est quasiment plein. Il reste quelques places à vendre, donc il faut profiter sur le site internet du Grand Prix, gpfrance.com. Il reste encore quelques places. On en a gardé pour les dernières semaines pour que tout le monde puisse jusqu'au bout acheter une place. Donc il y en a encore quelques-unes, mais pas beaucoup, je dois vous dire. On va fonctionner à guichet fermé. Il faut en profiter. Ouais. C'est le retour, c'est la fête, en tout cas ici, de la Formule 1 qu'on attend.
Alors, deux petites questions, et c'est là-dessus que je vais te laisser travailler, parce que je t'ai, tant mieux, on t'a distrait une dizaine de minutes, ça fait du bien. Les grid girls, il y en aura sur la grille des
parts? Non, vous savez, il n'y en aura pas.
Bon.
Et j'ai entendu sur votre antenne qu'on prêtait des propos à ce sujet. C'est dommage, certes, mais on aura des grid kids, et on fera les choses, il y aura suffisamment de spectacles, je dirais, sur la grille pour qu'on n'ait pas besoin cette année de nos grid girls qu'on peut voir tout au long de l'année le circuit Paul Ricard.
Bon, on pourra les admirer parce que oui, il y a énormément, il y a 300 jours d'activité sur le tracé. Il faut même le rappeler, c'est énorme. Il y a plein d'autres compétitions. Allez, une dernière petite question, ou plutôt deux. La première, c'est une affirmation. Le départ est bien à 16h10 en France. On est bien d'accord.
C'est ce qu'on a sur notre timetable. Et c'est ce qui est partout dans nos programmes. Donc oui, je confirme 16h10.
Bon, ça c'est une première chose, effectivement, et c'est extrêmement important. Et puis donc ce grand concert, puisque tu l'as dit, avec David Guetta en fermeture pour que ces 3-4 jours même soient bien remplis, bien pleins, et que tous les spectateurs soient comblés. C'est l'idée.
C'est l'idée, puis l'idée c'est de se dire que comme on va être très nombreux sur le plateau ici, ça laissera l'occasion à chacun de prolonger un peu la soirée et d'attendre que les parkings se libèrent, que les routes se libèrent pour rentrer tranquillement chez soi. L'idée c'est vraiment de faire ça dans la fête et avec un côté populaire qu'on affirme aujourd'hui en disant c'est un grand prix qui est le grand prix de tous les fans de sport mécanique.
Génial, merci beaucoup Stéphane Clerc, directeur du circuit. Merci Paul Ricard d'avoir été avec nous en direct dans Motors. On rappelle que RMC, c'est la radio de la Formule 1, c'est la radio partenaire du Grand Prix de France de Formule 1 pour ce grand retour sur le territoire français. Et c'est un vrai bonheur pour nous. Vous restez avec nous, bien sûr, puisqu'on peut vous dire que la troisième partie va être bien remplie également.
RMC Motors avec Motorsport TV. Jean-Luc Roy.
Profite de ce bruit de moteur. Effectivement, c'est toujours un régal. C'est la dernière ligne droite de Motors et c'est Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et c'est toujours le paradoxe. Évidemment, on entend Lewis Hamilton et Radio Paddock. C'est avec Benoît Boutron aujourd'hui. Bonjour Benoît.
Salut Jean-Luc. Salut Adrien. Salut.
Alors, on va parler d'autres disciplines, mais évidemment, de championnat du monde aussi.
Et du WRC. Évidemment, c'est l'actu chaude avec ce rallye de Sardaigne qui vient de se terminer. Victoire du Belge Thierry Neuville. Vous l'avez fait vivre en direct aux auditeurs. 7 dixièmes d'avance.
Incroyable.
Sur Ogier. C'est incroyable parce que l'écart est infime. Et malheureusement, c'est un coup dur pour le Français au classement général des pilotes puisqu'il compte désormais 27 points de retard. Évidemment, il y a des points supplémentaires qui sont donnés lors de la Power Stage, l'étape finale d'un rallye, et bien voilà, donc c'est Neuville qui l'a remporté, et du coup ça fait 27 points de retard pour Ogier. C'est un sacré coup dur, messieurs, parce qu'il est quand même dominé tout le week-end, hein. Pour lui.
Voilà, c'est ce qu'on peut dire, Adrien, c'est que effectivement, il n'était pas parti devant. Là, il bénéficiait d'une position qui était un poil plus favorable que d'habitude. Il a pris la tête du rallye, il a creusé un écart qui était jusqu'à 18-19 secondes. Ouais. Et puis, on a bien compris qu'à l'amorce de ce dernier jour, ça allait être chaud, hein, puisqu'il restait moins de 4 secondes.
Bah, on n'est pas heureux pour Sébastien. Ouais. Maintenant, c'est bien pour le rallye en général. On a une bataille qui se joue à couteau tiré jusqu'à la dernière spéciale, jusqu'à la Power Stage. C'est quelque chose d'assez énorme, cette dixième de seconde entre deux pilotes fabuleux. Neuville par sa pointe de vitesse et puis qui commence, ça y est, à acquérir une belle maturité, qui fait de moins en moins d'erreurs, qui a une bonne voiture avec la Hyundai, et voilà, ça va être une belle bataille jusqu'à la fin du championnat, et c'est beau pour le sport.
Info importante, messieurs, en WRC, c'est la trêve, hein, vous avez vu, trêve estivale. Prochaine étape sera le rallye de Finlande le 26 juillet, donc et bon, on pourra regarder la Coupe du Monde tranquille, les pilotes de rallye.
C'est vrai.
Là, il reste combien de rallye?
Je vais dire ça. Je crois qu'il reste entre 6 et 7 étapes.
J'ai le reste. Oui. Après, il y a l'Allemagne, la Turquie, la Grande-Bretagne. On part en Espagne et en Australie. Donc, tu vois, il faudrait faire le petit décompte. Mais il doit en rester 6, si je ne m'abuse.
Ouais, non, ça peut encore faire son retard. Hein. Ouais, il y a encore pas mal de...
Rien n'est perdu.
Alors, pour appuyer ce que tu disais, effectivement, Nicolas Gilles Soult, j'ai lu quelque part, son copilote, le copilote de Thierry Neuville, j'aime bien ne pas les oublier, c'est Julien Ingrassia qui était évidemment celui de Sébastien Ogier, disait que lui, dans la voiture aussi, il sentait que Thierry Neuville, on le connaît, il est rapide depuis très longtemps, mais bon, il commettait toujours, il était un peu au-dessus de ses pompes, on va oser le dire. Là, il a mûri, apparemment, il a une mentalité nouvelle et il a compris peut-être comment on gagnait un championnat du monde aussi, Adrien.
Oui, mais c'est clair, hein, on le voit, on le savait très très rapide depuis quelques années, et puis on le voit peut-être avoir pris un petit step de maturité et de constance, et cette zone de sécurité qu'il n'avait pas avant. Il a élevé son niveau de jeu, tout simplement. Il a compris qu'il pouvait rouler à 99% au lieu de rouler à 101.
En rallye
on peut penser parfois que les pilotes sont à 90%, mais c'est pas le cas.
Non.
Ils sont vraiment très proche des 100% tout le temps. Maintenant, voilà, chacun a son curseur et essaye de l'élever le plus haut possible. Et c'est celui qui a le curseur le plus haut qui arrive à avoir le plus de marge et à être constant tout le long d'un championnat.
Alors, tu parlais il y a un instant, Benoît, de cet écart de points de 27.
Oui.
Je crois que le troisième, c'est toujours Otanac, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Alors, Otanac qui est troisième. Ouais.
Et qui a été sympa parce qu'il y a eu un problème. Il faut raconter l'anecdote.
Il faut qu'on raconte ce qui s'est passé entre l'avant-dernière et la dernière étape, donc la Power Stage. Effectivement, il y a eu un fait divers assez marrant finalement pour Sébastien Ogier. En fait, il n'a pas voulu s'arrêter et répondre à une interview de la WRC, ce qui est un protocole a priori obligatoire. Problème.
Il ne voulait pas se déconcentrer.
Voilà, exactement. Il voulait rester concentré. Ouais. Problème. Son coéquipier, son copilote n'a pas eu le temps de prendre la carte de pointage pour la Power Stage, donc la course aurait été beaucoup trop dure. Ils auraient pu être meilleure course parce que effectivement, dans le règlement, il faut avoir cette carte de pointage. Et c'est assez marrant puisque Otanac, qui était coéquipier de Ogier chez M Sport, eh bien gentiment, beaucoup de fair play, lui a donné la carte de pointage pour qu'il puisse être bon sur cette Power Stage. Un très beau geste de la part d'Otanac. Hein.
Ah oui, c'est très sympa puisqu'il roule pour Toyota.
Hein, exactement.
Il n'était pas obligé de faire ça. En rallye, il y a souvent un bon esprit. Hein. Tu pratiques le rallye aussi, Adrien. Il y a souvent on se bat à coup de seconde ou de dixième de seconde aujourd'hui, mais bon, il y a une bonne mentalité.
C'est différent parce qu'on n'est jamais, on est en bataille plus contre soi-même en rallye et effectivement, il y a encore plus de respect, je pense, entre les pilotes ou en tout cas, on joue moins un jeu entre les pilotes puisque voilà, on n'est pas confronté à roue contre roue sur le tracé en même temps. Donc c'est différent, c'est une rivalité peut-être un peu plus saine.
Alors, passons à un sport où il y a des dépassements.
Ah, oula.
Il y en a beaucoup d'ailleurs.
Énormément.
Le MotoGP, on a vécu une semaine incroyable. Il y a eu le Grand Prix d'Italie la semaine dernière et depuis on a eu un mercato complètement fou. On y voit plus clair pour la saison prochaine avec cette bombe qui est tombée cette semaine. Jorge Lorenzo, triple champion du monde, vainqueur d'ailleurs du Grand Prix d'Italie avec Ducati, bien, va quitter Ducati à la fin de la saison. Ça aurait été un échec, comme Valentino Rossi, hein, d'ailleurs chez Ducati, ils n'ont pas réussi à s'adapter dans cette écurie. Il va rejoindre Honda. Et Marc Marquez, c'est quand même hallucinant.
Et ça commence à fonctionner pour Lorenzo.
Et
c'est
oui.
Ça qui est...
Et oui, alors justement, c'est ça qui est paradoxal.
Ça commence à fonctionner, il a fait une victoire.
Il revient quand même de très loin.
Il était rapide en début de course, si vous vous souvenez, souvent. Et puis malheureusement, ça tenait pas, quoi. Il flinguait ses pneus, ou il se passait un problème, il n'arrivait pas à
marquer. Est-ce qu'il se met à gagner aussi parce que peut-être dans la tête, il est un peu libéré par rapport à son avenir. Il sait qu'il part et un peu moins de pression et d'un coup.
Après, il y a une vraie question à se poser pour Ducati. Les top pilotes n'arrivent pas à s'adapter à la moto. Ça arrive souvent, même si l'année dernière, on a eu le contre-exemple avec la deuxième place du pilote italien au général. C'est très dur de piloter une
Ducati. C'est Cazestoner qui a réussi lui aussi. Alors là, c'est marrant d'entendre aussi les commentaires de Rossi qui a pas son pareil pour mettre son grain de sel et pour dire cette silly season, parce qu'on l'appelle comme ça en F1, en moto c'est pas. Et là, elle a débuté, c'est incroyable. Parce que il a fallu déjà que Pedrosa ne reconduise pas.
Exactement.
12 saisons avec Honda quand même, c'est incroyable.
Il s'arrête Dani Pedrosa, il aura pas de guidon la saison prochaine. C'est une autre info.
Par choix, est-ce qu'il a cherché à en trouver un?
Ce qui est assez marrant dans la com de Honda, c'est qu'on a laissé Pedrosa annoncer qu'il arrêtait. On a laissé 2 jours d'intervalle et après on a dit Lorenzo. Rien ne nous dit qu'on lui a pas dit en interne Lorenzo signe, donc il y a plus de place pour toi. Ouais.
En tout cas, la cohabitation l'an prochain entre Marquez et Lorenzo. Là, je peux vous dire que ça va être du show.
Et ce qui est assez drôle, c'est que souvenez-vous, lorsque Rossi jouait le titre contre Lorenzo, Marquez avait entre guillemets aidé Lorenzo à être champion. Donc Rossi, ça va certainement le rendre fou de piloter contre les deux Espagnols.
Ah, il va y avoir encore d'ici la fin de la saison, mais quelques grands moments.
La confrontation directe entre Marquez et Lorenzo va être très intéressante.
Exactement.
En tout cas, il arrive chez Marquez, Lorenzo.
On a un autre transfert d'ailleurs en MotoGP, c'est Iannone qui quitte Suzuki et qui va aller chez Aprilia. Du coup, il fera équipe avec Alex Espargaro et on en retient en fait que dans les équipes officielles, il n'y a plus qu'une seule place à prendre, cette place laissée par Iannone chez Suzuki. Et on parle d'un transfert de Joan Mir, la star de Moto3.
Qui
est champion du monde en titre, qui a 20 ans et qui pourrait monter du Moto3.
C'est Jack Miller qui avait fait ça à l'Australien, si je me rappelle bien. Et puis il y a un autre changement, c'est l'arrivée chez Ducati officiel du pilote entre guillemets de réserve, c'est Petrucci.
Danilo Petrucci,
Petrux comme on le surnomme.
On peut donner d'ailleurs les équipages officiels si tu veux pour la saison prochaine. Évidemment Honda, il y aura Marquez et Lorenzo, Yamaha, Rossi, Vignales, Ducati ce sera Dovizioso et Petrucci, les deux Italiens. Suzuki, il y aura Alex Rins, on attend de connaître le deuxième pilote. Et donc il y aura également Red Bull KTM avec Johan Zarco qui sera là. Donc c'est le choix qu'il a fait il y a quelques semaines. Il sera
ça c'est du lourd aussi
avec l'Espagnol Paul Espargaro.
Ça c'est du très lourd effectivement parce que on sait que Johan Zarco, le pilote français de pointe dont on attend toujours sa première victoire en Grand Prix, ça chauffe. Il a réalisé des pôles, enfin il est parti de la première ligne, etc. Mais ça va venir, c'est indubitable et tout le monde le dit d'ailleurs, y compris les meilleurs.
Exactement.
Parce qu'on voit bien en conférence de presse, c'était le cas au Grand Prix de France moto au Mans. On voit bien le respect que les autres, les meilleurs, que Marquez, quand Zarco s'exprime, Rossi ou Marquez le regardent en se disant
bon.
Eh ben oui.
Ce sera passionnant, la saison de MotoGP, évidemment. Et on termine avec l'IndyCar. Tu le sais, Adrien, on ne peut pas faire une émission sans parler d'IndyCar avec Jean-Luc Roy, c'est sa passion.
C'est impossible.
Premier podium de la saison pour Simon Pagenaud. Il a terminé deuxième à Los Angeles. C'est quand même un très bon résultat.
C'est super pour Simon.
Exactement.
Il a eu beaucoup de mal en début de saison, parce que la Penske n'était pas bien développée.
Huitième place pour Sébastien Bourdais. Oui. Et surtout, nouvelle victoire de Scott Dixon, le Néo-Zélandais, qui fait donc le doublé, puisqu'il a gagné à Indianapolis. C'est une belle opération pour lui, et au classement général, il s'envole du coup. Il domine ce classement de l'IndyCar, il est premier, et les Français sont un petit peu distancés. Pagenaud est 8e, Bourdais est 9e. Bon, ce sera compliqué, Jean-Luc, mais ça fait du bien à Pagenaud, ce podium.
Oui, puis on rappelle que Seb Bourdais relève de ce terrible accident Indianapolis. Il l'a effacé maintenant, il a roulé, d'ailleurs à Indy, il n'a pas eu de chance, parce qu'il était en mesure aussi de faire un très beau résultat. résultat. Seb, bon, il était un peu trop gourmand. Quant à Simon, bah, il termine dans le top 10 une nouvelle fois. Exactement. À Indy, donc c'était plutôt pas mal. Bon, on va suivre ce championnat où là, les pilotes peuvent se dépasser. Je veux dire que c'est possible, c'est et ça attaque dans tous les sens. Il faut un gros cœur. Bon, bah, c'était super, Benoît. Merci beaucoup.
Merci à vous.